J'aimerais parler sur le trompeur trompé dans Genèse 29, verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit : « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob : « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit : « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit : « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban : « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit : « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. On fait tous des erreurs dans la vie, il nous arrive de faire des mauvais choix, de nous tromper de direction. Peut-être vous avez acheté une maison, mais il y avait des vis cachées et vous avez été roulé. Peut-être vous avez été pris dans un travail, mais finalement on vous a mis de côté et vous êtes exclu de la société. Ou alors peut-être vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a conseillé de placer tout votre argent dans un placement risqué et vous avez perdu tout ce que vous aviez investi. Toutes ces erreurs, ça fait partie de la vie, malheureusement, ça nous arrive parfois. Je me rappelle même en 2008 de certains de ces hommes très fortunés qui avaient tout misé dans des placements qui s'étaient effondrés, avec les bourses qui s'étaient effondrées à l'époque, et ils avaient perdu tout leur argent. Eh bien, la seule solution qu'ils avaient trouvée, certains d'entre eux, c'était de se suicider. On a eu une terrible vague de suicides dans ces années-là. C'est terrible quand on considère que notre argent, c'est notre vie. Si on perd notre argent, on perd notre vie. Ça montre qu'il y a quand même une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'argent. Mais certaines erreurs vont nous suivre pendant toute notre vie. Et ici, on retrouve Jacob qui a fait des erreurs dans sa vie et ces erreurs vont le suivre. Jacob avait pris la bénédiction de son frère, il l'avait volé la bénédiction de son frère et il avait trompé son père. Donc pour lui, on va dire que les affaires marchaient bien. Mais finalement, le sort s'est retourné contre lui puisque son frère voulait le tuer et il a dû fuir. Pour se retrouver ici, donc le texte que nous lisons, c'est chez Laban, c'est très loin de sa maison paternelle. Il a dû fuir pour sauver sa vie. Et maintenant, il va rencontrer d'autres problèmes. En fait, les tromperies qu'il a fait subir aux autres, on va voir qu'elles vont lui revenir en pleine figure. C'est un peu comme un boomerang. Vous lancez le boomerang, mais un jour, il revient vers vous. Le verset 20, d'abord, premier point, on voit que Jacob est une victime naïve. Verset 20. Ainsi, Jacob servit, donc il servit Laban, 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc il croit qu'il va se marier avec Rachel. Il a fait donc une sorte de contrat avec Laban. Laban a dit, tu me sers 7 ans et tu auras Rachel pour femme. Donc il y croit, il est naïf, il fait confiance à son oncle. Bon, c'est vrai que son oncle, on dit en général les aînés, on respecte les aînés, on les honore, ils nous ont précédés, il n'a aucune raison de soupçonner le mal, c'est quelqu'un de sa famille, donc il lui fait confiance. Et c'est vrai que normalement, notre famille est censée nous protéger, notre famille est censée nous vouloir du bien, et pourtant, dans les familles, certains se dressent contre vous. C'est peut-être des parents, des grands-parents, c'est peut-être des enfants, et ils vont se retourner contre d'autres membres de leur famille pour leur faire du mal. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. C'est que même dans certaines familles, il y a des divisions, des déchirements, parce que les gens se traitent les uns contre les autres. Alors Laban n'est pas du tout qui il paraît être. Il paraît généreux, il paraît faire des avantages, il paraît donner à Jacob tout ce que Jacob demande. Donc, vous voyez, si on n'a pas de discernement, on pourrait y aller les yeux fermés. Mais on se rend compte que Laban, lui, il aime le profit, il aime l'argent, il veut que Jacob le serve gratuitement pendant 7 ans. C'est quelqu'un d'égoïste. Et ça existe, les personnes égoïstes. Et si vous êtes égoïste, finalement, vous serez comme Laban, vous chercherez toujours votre intérêt, mais pas ceux des autres. Vous écraserez les autres. Alors, ceux qui vivent en égoïste, ils éprouvent une certaine satisfaction parce que, ben, finalement, Laban profite de la situation, donc il en a des bénéfices. Oui, pendant un temps, il va être au bénéfice, mais finalement, ça va se retourner contre lui, il va être malheureux par la suite. Alors, peut-être, comme Jacob, vous avez fait confiance à quelqu'un de votre famille, que ce soit votre oncle, votre père, votre mère, votre grand-père, grand-mère, votre cousin. Vous lui avez fait confiance, mais il vous a trompé. Alors comment réagir quand on a été trompé par quelqu'un de notre famille? Parce que dans une famille, on est censé se serrer les coudes. Ça doit être un lieu d'amour, un lieu d'écoute, un lieu de partage. Mais Jacob, il n'a plus de famille. Et donc Laban, il se raccroche à Laban parce qu'il n'a plus la possibilité de rester avec ses parents. La famille peut devenir le lieu de tous les drames. Dans les familles, il y a parfois des mensonges, il y a parfois du vol, il y a de la tromperie, il y a des fois des enfants qui se déchirent pour l'héritage des parents, ils vont se diviser, ils vont se déchirer. Il y a parfois de la médisance, il y a parfois de la calomnie dans les familles. Alors Jacob a été naïf, il a cru qu'il avait perdu sa famille d'origine et qu'il allait trouver une famille où il allait être heureux. Mais non. Il a accordé sa confiance de manière aveugle, mais la confiance, ça se gagne. Il faut éprouver la personne pour voir si elle est sérieuse. Et là, il faut du temps. Il faut voir si la personne, si Laban fait vraiment ce qu'il dit pour lui faire confiance. Il a fait confiance rapidement. Certains parlent beaucoup, ils promettent des merveilles, mais leur comportement dit le contraire. Donc chacun doit être prudent. Proverbe 14, 15 dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, il croit tout ce qu'on dit, il est naïf, un petit peu comme Jacob, il est trop naïf, il croit sans vérifier, sans éprouver, et il va se faire tromper. Donc on se demande, mais comment Jacob a-t-il pu se faire rouler de cette manière et épouser la mauvaise personne finalement, puisqu'il s'est retrouvé à épouser Léa alors qu'il voulait se marier avec Rachel. Alors les commentateurs cherchent une explication. Est-ce qu'il avait bu beaucoup de vin et qu'il était un peu ivre, il ne s'est pas rendu compte? Est-ce que le voile de la mariée la cachait, il n'a pas compris que c'était Léa, ce n'était pas Rachel? Est-ce que c'était l'obscurité? Ou alors est-ce que Léa a simulé aussi de connivence avec son père pour se faire passer pour sa sœur? On n'a pas l'explication, mais en tout cas, c'est une tromperie exceptionnelle. Ça n'a pas d'équivalent. Vous imaginez un mariage. Vous préparez votre mariage. Vous allez au mariage et vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne. C'est une tromperie, je crois que c'est du jamais vu. Même ailleurs dans la Bible, on ne voit pas ça, et je ne sais même pas si dans l'histoire, c'est déjà arrivé une chose pareille. Se marier avec quelqu'un et ce n'est pas la bonne personne avec qui vous mariez. C'est assez incroyable, cette tromperie. Finalement, c'est une très sévère leçon pour le trompeur Jacob, puisque lui-même avait trompé son frère, il avait trompé son père, il avait donc l'habitude de la tromperie, ça ne l'avait pas trop dérangé, il avait profité que son père n'y voyait pas trop pour se faire passer pour son frère, enfin, il savait tromper, mais maintenant il est victime d'une tromperie comme jamais il aurait pu imaginer. C'est un drame. Il ressent de l'injustice. Quand on est trompé, qu'est-ce qu'on ressent? De l'injustice? Pourquoi Dieu a permis? Peut-être le désir de vengeance? Mais il ne faut pas oublier que Jacob était un trompeur. Et ce que vous semez, un jour ou l'autre, vous le récolterez. Galates chapitre 6, verset 7, c'est la Bible qui le dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Eh bien, c'est ce qu'a vécu Jacob. Il a semé la tromperie, il a récolté la tromperie. Il s'est fait tromper. Un agriculteur le sait, s'il va semer des plants de tomates, il va récolter des tomates. S'il plante des choux, il va récolter des choux. Maintenant, s'il sème de l'ivraie, il va récolter de l'ivraie. Donc, si vous semez des paroles dures, vous allez récolter des paroles dures. Et si vous semez l'amertume, vous allez récolter l'amertume. Mais si vous semez la bonne humeur, si vous semez la joie, vous allez récolter la joie. Ça dépend de la semence. Mais on récolte toujours ce que l'on sème. Je prends quelques exemples dans la Bible. Pharaon avait semé la mort lorsqu'il a fait tuer les premiers-nés des enfants d'Israël. Eh bien, il a récolté la mort puisque les premiers-nés des Égyptiens ont été tués. David avait semé l'adultère et le meurtre avec Bathsheba. Lorsqu'il a commis l'adultère, il a fait tuer son mari. Mais il a récolté la violence dans sa propre famille, le meurtre dans sa famille. Et un fils qui a été assassiné. C'est pourquoi nous devons bien réfléchir avant de semer quelque chose. Parce que quand nous parlons, nous envoyons une semence. Ça peut être une semence de vie, mais ça peut être une semence de mort. Parce que par tes paroles, tu communiques la vie, mais par tes paroles, tu communiques la mort. Mais si tu communiques la mort, tu vas récolter la mort. Alors, ça mettra peut-être des années, mais un jour ou l'autre, ça reviendra. Peut-être même, vous avez oublié la parole que vous avez dite. Ça remonte à 10 ans, mais la semence, elle est partie. Et un jour ou l'autre, elle va revenir. Parce que Dieu enregistre tout dans ses livres. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Alors ça fait combien toutes? Ça fait 100%. Ça veut dire que c'est enregistré. Et peut-être ces paroles, on les a complètement oubliées. Mais tout est consigné et ce qu'on a semé, ça va ressortir. C'est pourquoi si on a péché, la Bible dit de nous repentir et de demander pardon pour nos péchés afin qu'ils soient effacés. Mais s'ils ne sont pas effacés, ils reviendront à nous en jugement. Et donc c'est pour ça que la parole, elle invite chaque homme, chaque femme à se repentir aujourd'hui. C'est dans Hébreux, le texte dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il nous faut nous repentir, accepter Jésus et marcher avec lui. » Donc il y a quand même un espoir. Il y a un espoir pour ceux qui croient. Il y a un espoir pour ceux qui font confiance au Seigneur. Mais pour ceux qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter Dieu et qui veulent semer leurs paroles vaines, comme dit Jésus, ces paroles vaines, elles reviendront comme une semence. Ils récolteront le fruit de ces paroles qu'ils ont semées à tort et à travers, dont ils ne se rappellent peut-être plus. Mais ça, c'était le premier point. Donc on voit la naïveté de Jacob. Le deuxième point, c'est au verset 25 que l'on voit maintenant, c'est la malhonnêteté de Laban. Verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa, donc c'est le lendemain du mariage. Alors Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ah oui. La coutume, en fait, Laban la connaissait, mais Jacob ne la connaissait pas. Jacob a été malhonnête, plutôt Laban a été malhonnête parce qu'il n'a pas révélé la coutume. Il y a des gens malhonnêtes comme Laban partout. Il y a des gens malhonnêtes parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Il y a des choses qui cachent, mais ils le savent. C'est-à-dire que pendant ces 7 années, en fait, Laban savait ce qu'il allait faire. Donc, il avait un plan. Et certains vivent ainsi, même s'ils sont là, et des fois, ils viennent à l'église, ils prient, mais dans leur cœur, il y a de mauvaises pensées. Ils trompent leur prochain. Et un jour ou l'autre, la vérité viendra à la lumière. Pendant 7 ans, Laban a trompé Jacob en laissant croire qu'il allait se marier avec Rachel. Mais cette coutume locale disait qu'on ne peut pas épouser la cadette, il faut d'abord que l'aîné soit marié. Et en fait, l'idée de Laban, c'était d'utiliser Jacob encore 7 années de plus. Donc il avait déjà utilisé 7 ans pour son service, gratuitement. Eh bien, il voulait en profiter encore 7 ans, ce qui fait 14 ans de travail gratuit pour Laban. Mais au-delà de cela, il ne respecte pas ses propres filles, parce qu'il a trompé ses filles aussi, en les faisant épouser Jacob. Donc il met tout le monde dans une situation impossible. Et qu'est-ce qui guide Laban? C'est l'amour de l'argent. Il n'a pas l'amour de sa famille, il n'a même pas l'amour de ses filles, il n'a même pas l'amour de Jacob, il veut du profit. Et regardez l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent vous fera faire de mauvais choix. 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent, c'est comme une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ici, on retrouve Laban, qui était comme possédé de cet amour de l'argent et qui s'est jeté dans des tourments dans sa propre famille, qui a semé le chaos dans sa famille. Laban, donc, va tromper tout le monde. Alors peut-être, dans un premier temps, vous allez gagner sur tous les tableaux, parce qu'au début, Laban en profite, 7 ans de service gratuit de Jacob, plus 7 ans supplémentaires. Ses 2 filles sont mariées, mais on dirait qu'il profite de tout. Mais finalement, un jour, le vent va tourner et tout ce que Laban a semé va finir par se retourner contre lui. Il va tout perdre. Un jour, Jacob va partir avec sa famille et ses biens. Et tout ce que Laban a voulu construire va s'effondrer. Quand vous courez après l'argent, vous courez après un mirage, et finalement, comme Laban, vous ne serez jamais heureux. Vous aurez profité un temps, oui. Vous aurez eu peut-être des avantages matériels, oui. Mais vous pouvez tout perdre aussi et connaître bien des déboires. Parce que le vrai chemin du bonheur, la Bible le montre, ce n'est pas de faire nos désirs ou notre volonté sans nous soucier de Dieu, mais c'est de chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Comme Jésus l'a dit dans sa prière à Gethsémané, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et quand on arrive à ça, on trouve le chemin du bonheur, c'est faire la volonté de Dieu. Je termine avec un dernier point, c'est les enfants qui vont arriver, les enfants de Jacob, au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et elle enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantai trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Alors on connaît cette histoire tragique. Du coup, Jacob, qui n'a rien demandé, se retrouve marié à deux femmes. C'était vraiment une situation terrible. Et en plus, Jacob aimait Rachel plus que Léa, donc il avait sa préférée. Rachel signifie brebis. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Et donc le cœur de Jacob était attaché à Rachel. Tandis que Léa, il est dit qu'elle avait les yeux délicats. Et ça, c'est un terme qui évoque une faiblesse ou alors un problème physique. D'ailleurs, j'ai regardé l'étymologie du nom Léa, c'est assez étonnant, le nom Léa. Il y a trois étymologies, trois significations. La première, c'est lionne de la sagesse, mais la deuxième, c'est fatiguée, dépressive. Et alors, la troisième signification, c'est vache sauvage, issue de l'acadien. C'est pas très facile à porter comme prénom, ça. Vache sauvage, fatiguée et dépressive. On dirait que Léa, ben en fait, il y a tout qui s'acharne contre elle. Il n'y a rien pour elle, même son nom. Alors, elle avait peut-être un problème d'apparence physique, les yeux délicats, on suppose que c'était une difformité. Mais en tout cas, elle n'était pas aimée de Jacob, c'était une souffrance. Et il y a un vrai paradoxe dans ce récit, et c'est là qu'on voit la main de Dieu, c'est que celle qui était aimée, la préférée, elle était stérile, tandis que celle qui était rejetée, elle a enfanté. Elle a enfanté quatre enfants ici. Alors on pourrait penser que, puisque Jacob préférait Rachel, ben c'est Rachel qui va enfanter. Non, c'est Léa. Dieu va passer par Léa. Et finalement, Léa va donner 6 des 12 enfants, des 12 tribus, vont passer par Léa, tandis que seulement 2 pour Rachel. Surtout, ce qui est remarquable avec Léa, c'est qu'elle a donné naissance à 2 des tribus les plus importantes, qui seront la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? On a vu son nom tout à l'heure. Lévi, parce que ça va être toute la tribu qui va être au service de l'Éternel dans l'Ancien Testament. La tribu des sacrificateurs, les Lévites, on les appelle les Lévites, ceux qui servaient dans le temple, donc tous ceux qui sont attachés au Seigneur. Et puis la deuxième tribu qui est majeure, ça va être Judas. Elle a donné naissance à Judas, qui est la tribu d'où est issu David et la tribu d'où est issu Jésus. Donc, elle est dans la lignée de Jésus directement. La femme rejetée, c'est-à-dire Léa, est devenue finalement la principale. Psaume 118, verset 22, à propos de Jésus, dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Jésus lui-même a été rejeté, mais il était le principal. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes rejeté, comme Léa, vous êtes mis de côté. Personne ne voit vos qualités. Mais ça n'empêche pas que Dieu a un plan et qu'il accomplit son plan, lui, en son temps et comme il veut. Donc, il peut vous utiliser pour sa gloire comme il le désire, même si vous êtes rejeté. Par contre, Rachel va tout faire pour avoir des enfants. Elle va souffrir de sa situation. Elle vit la stérilité comme une malédiction. Et en plus, elle voit sa sœur qui a des enfants, 4 enfants. Elle va faire un plan pour passer par sa servante, c'est-à-dire que au lieu de patienter et de s'attendre à Dieu pour avoir ses enfants à elle, elle va passer par sa servante. Et donc, c'est la servante de Rachel qui va avoir Dan et Nephtali. Elle a été impatiente, elle n'a pas voulu attendre que Dieu réponde à ses prières. Elle voulait absolument avoir des enfants. Donc voilà. Et du coup, Léa, voyant que la servante de Rachel donnait aussi des enfants à Jacob, elle a fait pareil. Elle a utilisé sa servante pour avoir d'autres enfants. Ainsi, sont nés Gad et Aser. Et enfin, Léa a eu encore 2 enfants, Issachar et Zabulon. Et finalement, à la fin, puisque Rachel priait pour avoir des enfants, elle a eu aussi des enfants. Joseph, qui va être déterminant parce que c'est grâce à Joseph que toute la famille va être sauvée dans un temps de famine par la suite. Et puis, Benjamin, le dernier de la famille. Et on a maintenant les 12 tribus avec les 2 femmes, donc Léa et Rachel, et puis les 2 servantes de ces 2 femmes. Alors, en conclusion, on voit que Jacob a semé, il a quand même semé la tromperie. Mais il n'aurait jamais imaginé récolter la tromperie dans sa vie. Et là, il faut donner un avertissement que ce que l'on sème, on le récolte. Dieu a établi son plan. Malgré les vicissitudes, les méandres, les difficultés, eh bien on voit que finalement, les 12 tribus se sont dessinées. Et les choses paraissaient bien compliquées, mais en tout cas, Dieu a permis qu'il y ait ces 12 tribus maintenant qui se mettent en place. Et ce qu'on se rend compte, c'est que malgré nos erreurs, nos détours, Dieu accomplit son plan. Il nous permet d'avancer, il nous permet de nous en sortir. Et c'est vrai qu'on fait des erreurs, comme Jacob, il a fait ses erreurs, il en a payé le prix, mais il avait quand même un cœur attaché au Seigneur, et le Seigneur l'a conduit quand même, et lui a permis d'avoir cette grande famille et ses 12 enfants qui vont être les 12 tribus d'Israël. On va prier un instant. Merci pour ta parole qui nous montre, Seigneur, combien tu es fidèle et tu n'abandonnes pas tes enfants, même s'ils sont rejetés, même s'ils sont mis de côté. Et nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, à ta parole. Et particulièrement, nous voulons veiller à tout ce que nous semons, que ce soit en parole, en pensée, en acte. Parce que ta parole nous rappelle ce soir encore que tout ce que nous semons, nous le récolterons un jour. Et nous voulons être vigilants à toute parole vaine, à toute pensée qui est contraire à ta parole, tout ce que l'ennemi veut nous pousser à faire qui nous égare. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons être de ceux qui réalisent que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas chercher par nous-mêmes des solutions. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur, non pas raisonner à la manière de ce monde, mais chercher dans ta parole le secours, le soutien. Tu bénis aussi ceux ou celles qui ont été maltraités, malmenés dans leur propre famille, comme Jacob a connu cela, qui ont été trompés, qui ont été mis de côté, qui ont été rejetés. Et Seigneur, nous croyons que toi, tu n'abandonnes pas tes enfants, mais que tu tends la main à chacun, que tu veux faire grâce, que tu veux encore bénir. Et nous te prions de consoler les cœurs, d'apporter la paix, la guérison dans les blessures, dans les souffrances. Oh, merci Seigneur de ce que tu es le Dieu des consolations, le Dieu de toute grâce. Vers toi, nos yeux sont tournés dans la foi. Et merci d'encourager chacun, Seigneur, à persévérer, à être fidèle, à être de ceux qui cherchent la vérité Nous ne voulons pas suivre le chemin de Laban, ce trompeur qui a été malhonnête. Nous voulons chercher, Seigneur, à marcher dans tes voies, à suivre ton commandement, d'être fidèle, d'être sérieux, d'être engagé et de te mettre toujours à la première place. Dans le nom de Jésus, amen.